présenter l'intervenant de ce soir, Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Il est né en 1967 à Paris. Il a fait des études d'histoire, puis il est entré à l'Institut d'études politiques de Paris en 1988, section relations internationales. En 1995, il est devenu docteur en sciences politiques. Il est spécialiste des questions de violence et de sécurité urbaine au Nigeria et en Afrique du Sud. Il a effectué de nombreuses missions à l'étranger, en particulier en Afrique, et des études sur les camps de déplacés et de réfugiés au Congo, au Burundi, au Cap-Vert, à Nairobi, au Libéria. Et depuis 2001, il mène une étude sur la transition démocratique au Nigeria. Depuis 2003, il enseigne les enjeux stratégiques de l'aide humanitaire dans les pays en guerre à l'Institut d'études politiques de Paris. Il dirige depuis 2003 l'Observatoire de l'action humanitaire en ligne sur observatoirehumanitaire.org, observatoire-humanitaire.org. Il a vécu plusieurs années dans ces pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud. Je signale trois livres de lui que vous pourrez retrouver en ligne de toute manière. La bibliographie sera en ligne. C'est Diaspora et terrorisme aux éditions de presse de sciences politiques en 2003. Ville et violence en Afrique subsaharienne chez Cartala 2002 et l'aide humanitaire, aide à la guerre, point d'interrogation, aux éditions complexes en 2001. Donc je lui donne la parole pour une cinquantaine de minutes ou un peu plus pour nous parler de la vie dans les camps de réfugiés et ensuite Marc-Antoine Pérouse de Monclos répondra à vos questions. Voilà, merci.
Bon, bah, eh bien, je vous remercie tout d'abord de m'accueillir ici. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible et de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti sur des phénomènes extrêmement complexes. L'essentiel de mon propos va essayer de vous démontrer que les réfugiés ne sont pas des victimes passives, mais aussi des acteurs économiques, politiques, voire pour certains d'entre eux des acteurs militaires. Et de ce point de vue, j'invite à prendre des distances avec la représentation que l'on a souvent du réfugié dans un camp, affamé, le ventre ballonné, vêtu de haillons. Cette image ne correspond qu'à une toute petite partie de la réalité. Dans la plupart des cas, en réalité, les réfugiés sont aussi des entrepreneurs qui essayent d'optimiser les stratégies de survie qui se présentent à eux. Donc je les considère comme des acteurs de plein droit, dont je vais essayer d'étudier et d'analyser devant vous les différentes stratégies de survie. Mais avant de commencer, je voudrais quand même d'abord revenir sur la définition de ce qu'est un réfugié, parce qu'elle prête souvent à confusion, ainsi que la définition de ce qu'est un camp de réfugiés, plus précisément. Et c'est seulement dans un second temps de ma présentation que je m'attacherai à étudier plus avant les stratégies de survie à l'intérieur de ces camps de réfugiés. Bon, la définition de ce qu'est un réfugié, elle est codifiée en principe dans un texte de loi du droit international humanitaire, qui est la Convention de Genève de 1951, qui définit le réfugié comme victime de persécutions d'ordre politique, religieuse, raciale, ethnique, et j'en passe, et des meilleurs. Bon. Cette convention, vous le voyez, elle date de 1951, elle s'inscrit dans un contexte politique très précis, qui est celui de la guerre froide, et je vais montrer en quoi, depuis, le concept de réfugié s'est élargi à d'autres types de phénomènes de migration sous la contrainte. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, certains groupes militent en faveur de l'extension de cette persécution à des persécutions d'ordre sexuel, par exemple en faveur des homosexuels victimes de la répression du régime Mugabe au Zimbabwe. Ou bien aussi comment certains groupes environnementaux demandent à ce que ce qu'ils appellent les éco-réfugiés, c'est-à-dire les victimes de catastrophes naturelles, soient également autorisés à demander l'asile au même titre que les victimes de persécutions politiques. Le raisonnement étant que l'Occident a une part de responsabilité du fait de l'industrialisation massive de la planète dans les règlements climatiques qui seraient liés à cette industrialisation. Bon, ce n'est pas mon propos de revenir sur un autre débat, la relation entre l'industrialisation, les dérèglements climatiques et la multiplication des catastrophes naturelles, mais l'idée, c'est d'intégrer dans cette convention de Genève de 1951 que certains dénoncent comme obsolète, des éco-réfugiés, c'est-à-dire que, par exemple, les victimes du tsunami asiatique de décembre 2004, victimes de raz-de-marée, seraient autorisées, en vertu du droit international humanitaire, à demander l'asile en Occident, au même titre que les victimes de persécutions politiques. Ce qui a aussi évolué depuis 1951, c'est qu'à l'époque, dans l'entendement des législateurs, les réfugiés étaient victimes de répression par des États, essentiellement. Et c'était des réfugiés victimes de persécutions à titre individuel. Or, en réalité, quand on parle des camps de réfugiés aujourd'hui, on parle plutôt de gens qui ont fui des conflits armés, qui démontrent plutôt les défaillances de l'État, voire l'effondrement complet de l'État. Donc ce ne sont pas des gens qui sont victimes de persécutions à titre individuel par un État, mais plutôt des gens qui fuient des crises politiques ou aussi des catastrophes naturelles, et parfois les deux se conjuguent, qui démontrent plutôt l'absence d'État, plutôt qu'une répression étatique à titre individuel. En Afrique notamment, les pays du continent noir en ont très vite pris conscience et ont rédigé ainsi une sorte de convention bis, si on peut dire, qui élargissait donc la convention de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité Africaine en 1969, qui voulait justement élargir l'entendement et le concept du droit d'asile à des gens admis en masse, puisque c'était des communautés qui fuyaient en masse des conflits armés notamment, et qui donc, à défaut d'un asile conventionnel, comme on dit, qui permet de circuler à l'intérieur du pays d'accueil, voire de s'y installer définitivement, de s'y marier, etc., mais accorder une sorte d'asile temporaire, un asile de facto, plutôt qu'un asile de juré, un asile conventionnel. Vous allez voir d'ailleurs que c'est très important, parce que ce qu'on appelle les réfugiés prima facie, à l'intérieur, qui sont accueillis à l'intérieur des camps placés sous la protection de la communauté internationale, ne bénéficient pas tous les droits du réfugié conventionnel, par référence à la Convention de Genève de 1951, qui, eux, ont le droit de circuler librement à l'intérieur du pays d'accueil, ce qui n'est pas le cas des réfugiés qui bénéficient d'une sorte de statut d'extraterritorialité à l'intérieur des camps et qui, eux, n'ont pas le droit, bien souvent, d'en sortir. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus parce que le camp de réfugiés comme un espace fermé conditionne évidemment les stratégies de survie des occupants de ces espaces. Ce qui a aussi évolué depuis la Convention de Genève de 1951, pour essayer de comprendre ce qu'est un réfugié, c'est le brouillage entre la migration économique et la migration politique. Et je dois dire que la fermeture des frontières du monde développé, et notamment de l'espace Schengen en Europe, a aussi beaucoup contribué à brouiller cette distinction entre migration économique et migration politique. Puisque désormais, la migration de travail est très difficile à mettre en œuvre, puisque désormais aussi le droit à la réunification familiale se heurte à de nombreux obstacles. Beaucoup de migrants qui autrefois auraient été classés comme des migrants économiques sont tentés de déposer l'asile pour obtenir, pour régulariser leur situation dans les pays développés, ce qui contribue aussi à gonfler, notamment au début des années 90, le nombre de demandeurs d'asile enregistrés dans les pays de l'OCDE, hein, les pays riches, les pays développés. Bon, je dois dire que c'est peut-être aussi un faux débat quelque part, parce que je suis personnellement tout à fait incapable de dire si la principale cause aujourd'hui du Somalien qui fuirait des combats à Mogadiscio serait plus politique plus qu'économique. Ce qui est clair, c'est que le Somalien qui fuit Mogadiscio aujourd'hui n'est pas victime de persécution à titre individuel par un État. Ça fait au moins depuis 1991 qu'il n'y a plus d'État digne de ce nom dans le sud de la Somalie. Mais il est clair que dans les facteurs de départ du réfugié somalien aujourd'hui, il y a à la fois des facteurs économiques et des facteurs politiques. Et donc, pour essayer de transcender ce débat sur la difficulté qu'il y a à distinguer ce qui relève de la migration économique quand on vient d'un pays en guerre et ce qui relève de la migration politique, je crois qu'il faut plutôt revenir sur les fondamentaux, finalement, de la définition du réfugié, c'est-à-dire la part de coercition, la part de contrainte qui s'exerce sur la migration. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut étudier ça tant au niveau des causes de départ que des facteurs d'arrivée. Si ceci représente les facteurs de départ du migrant et ceci les facteurs d'arrivée, il faut voir que la migration du réfugié se distingue, par exemple, de la déportation, où là, la contrainte s'exerce à la fois au niveau du départ et au niveau de l'arrivée. Ça vaut aussi d'ailleurs pour l'extradition, sauf que l'extradition représente un volume tout à fait négligeable d'émigration internationale aujourd'hui. En revanche, la déportation, dans l'histoire, vous le savez, avec l'attrait des esclaves, ça représentait des volumes de population énormes. Mais ça n'a rien à voir avec les réfugiés, puisqu'il s'agit de populations captives qui ont été arrachées à leur milieu d'origine, qui ont été radiées, par exemple, puis transportées vers une destination qui d'ailleurs souvent était inconnue et qu'en tout cas ils n'avaient pas choisie. Là-dessus, il y a vraiment une différence fondamentale avec le réfugié. Le réfugié, effectivement, la contrainte s'exerce au niveau du départ. Il n'a pas choisi de partir. Il est obligé de partir à cause d'une crise politique, de conflits armés, d'une catastrophe naturelle. En revanche, et vraiment j'insiste là-dessus parce que ça me paraît fondamental et ça met en évidence toute la marge de manœuvre dans les stratégies de survie des réfugiés, en revanche, le réfugié peut essayer de choisir une destination. Alors évidemment, sur son parcours migratoire, les obstacles sont extrêmement nombreux et il n'est pas évident qu'il parviendra à la destination qu'il veut essayer d'atteindre. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les pays en guerre, il y a des véritables stratégies d'investissement familial, où par exemple l'aîné va essayer de demander l'asile politique en Occident, tandis que le second, lui, s'installera dans un camp de réfugiés dans le pays voisin du pays d'origine, et tandis que le troisième, le cadet, lui, restera dans le pays où a lieu la crise pour essayer de protéger les biens de la famille. Et tout ceci, tous ces gens communiquant évidemment entre eux, ce qui d'ailleurs insère le camp de réfugiés à l'intérieur d'un véritable réseau transnational, et j'aurai l'occasion de revenir sur cette question parce qu'elle est aussi, je crois, très, très importante. Donc vous le voyez, je crois que c'est quand on regarde le niveau de contrainte qui s'exerce sur la migration qu'on essaye un peu de que cela permet de discerner ce qui relève vraiment de la migration du réfugié par rapport à celle à la migration économique, où en principe il n'y a ni contrainte ni au niveau du départ ni au niveau de l'arrivée, et ce qui distingue aussi la trajectoire du réfugié de celle du déporté, où là la contrainte s'exerce tant au niveau du départ qu'au niveau de l'arrivée. Il y a quelques cas très rares où effectivement le parcours du réfugié est encadré depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Mais c'est vraiment moins de 1% des réfugiés recensés dans le monde, il faut le savoir. Je pense par exemple à l'opération Moïse qui avait été organisée par Israël pour évacuer d'Éthiopie à travers le Soudan les Falachas, donc ces Éthiopiens qui étaient les derniers juifs d'Abyssinie. Là, effectivement, il y a eu une opération aéroportée quasiment depuis le lieu de départ du réfugié jusqu'à son lieu d'arrivée. Mais encore une fois, ces procédures sont extrêmement rares. Dans la plupart des cas, le réfugié doit quitter une situation donnée, une situation de crise, et il essaye d'optimiser les solutions qui se présentent à lui. Et parmi ces solutions, il y a le camp. Alors, il y a aussi un autre point pour en terminer rapidement sur cette question de définition du réfugié, c'est évidemment le franchissement d'une frontière internationale qui conditionne statutairement l'obtention d'un statut de réfugié. Alors je dois dire qu'au début, moi j'étais un peu sceptique par rapport aux arguties juridiques de ce point de vue entre le franchissement d'une frontière internationale ou non. C'est-à-dire que si je me place du point de vue de la contrainte, le déplacé interne, qui fait une crise à l'intérieur des frontières nationales de son pays, n'est pas moins victime que le réfugié qui aurait franchi une frontière internationale. En tout cas, c'est comme ça souvent que je l'ai ressenti. Exemple, à un moment, j'ai eu l'occasion d'être sur une localité, dans une petite localité ivoirienne à la frontière du Libéria, au moment où il y avait la guerre, où la guerre n'était pas en Côte d'Ivoire, mais était au Libéria voisin, dans les années 90, et où on pouvait voir débarquer des Libériens qui fuyaient les monts Nimba, d'où était partie la rébellion de Charles Taylor contre le régime militaire de Samuel Doe fin 1989. Et ces Nimba avaient parcouru 50 km, avaient franchi la frontière ivoirienne et étaient accueillis dans des camps de réfugiés qui, eux, bénéficiaient de la protection de la communauté internationale. A l'inverse, à Monrovia, dans la capitale du Libéria, ces mêmes Nimba devaient parcourir entre 300 et 400 km, n'étaient pas moins victimes de traumatismes, et néanmoins avaient simplement un statut de déplacé interne à l'intérieur de leur pays, et devaient beaucoup plus se débrouiller par eux-mêmes pour s'installer dans les bidonvilles à la périphérie urbaine de Monrovia, parce que la Convention de Genève de 1951, en principe, n'encadre pas et n'accorde pas une protection de jurés à des déplacés internes. Il faut pour cela avoir été victime d'un traumatisme et avoir aussi franchi une frontière internationale. Là où la différence joue, c'est effectivement qu'au niveau du statut et de la protection physique de la personne victime d'un déplacement forcé. Statutairement, les Nations Unies, et notamment le Haut Commissariat des réfugiés pour les Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, décidément, ne peut, en principe, théoriquement, que protéger des victimes de déplacements forcés qui auraient franchi une frontière internationale et qui auraient été accueillies dans un pays signataire de la Convention de Genève de 1951. Et les accueillir notamment dans des camps. Je dis ça parce qu'il y a aussi des pays dans le monde qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève de 1951, où du coup les Nations Unies, statutairement, n'ont pas le droit de protéger juridiquement des réfugiés, des personnes qui seraient tout à fait autorisées en principe à bénéficier d'un statut de réfugié. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud, à l'Arabie Saoudite, lors de la première crise du Golfe, en 1991, qui a accueilli des réfugiés irakiens, et là le HCR a dû négocier une convention ad hoc pour être autorisé à intervenir sur les territoires saoudiens et ériger des camps pour abriter les réfugiés irakiens. Je pense aussi à la Malaisie, qui accueille des réfugiés indonésiens qui ont fui un conflit armé sécessionniste à Aceh, et qui, la Malaisie n'est pas signataire de la Convention de Genève de 1951, et à ce titre, le HCR n'est pas en principe autorisé à venir secourir les réfugiés. Donc encore une fois, vous voyez là, je ne vais traiter finalement que d'une toute partie des victimes de déplacements forcés, ceux qui ont franchi une frontière internationale et qui sont accueillis dans un pays signataire de la Convention de Genève de 1951. Et encore une fois, là, ce n'est vraiment qu'une partie des flux de la migration sous contrainte. Alors maintenant, le camp, la genèse de camp. Pourquoi est-ce que le camp est devenu la solution de facilité privilégiée par les organisations humanitaires pour accueillir les réfugiés? Et quand je dis le camp, je veux aussi parler du phénomène du camp pour les déplacements internes, parce que là aussi, c'est une solution qui est très largement retenue. Pourquoi? Je crois que là, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse stratégique. Le camp remplit une fonction militaire. Il faut le voir quand même, dans l'histoire de l'humanité, le camp de déplacés internes, le camp de réfugiés, est un concept assez récent en réalité. Historiquement, ceux qui fuyaient des crises, des conflits armés, des catastrophes naturelles avaient plutôt tendance à se disperser, d'où d'ailleurs le mot diaspora. Donc ils s'éparpillaient dans la nature, ils ne se regroupaient pas. La notion de camp est en réalité extrêmement moderne. Elle date au mieux du XIXe siècle. On le voit apparaître, par exemple, avec les camps de reconcentrados qui sont mis en place par le colonisateur espagnol à Cuba en 1898 pour essayer d'isoler les insurgés qui demandent l'indépendance par rapport aux masses paysannes. On voit aussi apparaître des camps ainsi de regroupements de populations civiles lors de la guerre des bourgs qui oppose en 1900-1901 le colonisateur britannique aux Afrikaners, descendants de protestants hollandais, il y a aussi quelques huguenots français d'ailleurs parmi eux, dans l'intérieur de l'Afrique du Sud. Et où là, le colonisateur britannique essaye justement d'isoler les résistants de la population civile qui est regroupée de force dans des camps, ce qui permet de mieux contrôler la population. Ce sont des phénomènes militaires qu'on voit de façon très récurrente. Les Français n'ont pas fait autrement pendant la guerre d'Algérie. Ils ont aussi essayé de regrouper les Algériens qui menaient la lutte d'indépendance dans des entre guillemets villages de la paix, qui permettaient en réalité de contrôler la population. Les Américains ont mené aussi une tactique de la terre brûlée qui consistait à créer ces fameux villages de la paix pendant la guerre du Vietnam dans les années 60. Les Occidentaux n'ont pas la primeur en la matière d'ailleurs, puisque la dictature marxiste de Mengistu en Éthiopie n'a pas procédé autrement, en essayant là même carrément de transférer les populations du nord de l'Éthiopie où opéraient des guérillas indépendantistes érythréennes ou revendicatrices comme la guérilla tigréenne, donc essayer de transférer de force les populations du nord vers le sud afin de mieux isoler la guérilla. L'idée, c'est finalement pour les stratèges militaires et les stratégies de la contre-insurrection, l'idée c'est de reprendre à l'envers l'adage de Mao selon lequel une guérilla doit être à l'aise dans la paysannerie comme un poisson dans l'eau. Donc l'idée pour les militaires, c'est en quelque sorte de vider l'eau de l'aquarium, de pratiquer la tactique de la terre brûlée, et donc d'empêcher les guérilleros de se ravitailler grâce à la paysannerie. Et donc d'isoler, de regrouper, de forcer la paysannerie à se regrouper dans des prétendus villages de la paix, qui sont en fait des camps de déplacés internes, afin de mieux isoler donc les combattants, et d'empêcher que ceux-ci ne puissent se ravitailler. Quitte d'ailleurs à, du coup, provoquer des situations de crise humanitaire. C'est ça qui est terrible. Et on l'a encore vu au Burundi avec la junte militaire à partir de 1996. C'est-à-dire que là aussi, même tactique, on veut séparer dans la population civile les paysans des combattants. Et du coup, on regroupe les paysans dans des camps fermés où ils n'ont pas le droit de sortir, ce qui les empêche du coup de cultiver leurs champs et ce qui les rend dépendants de l'aide alimentaire internationale. Et c'est finalement ce phénomène de regroupement dans des camps qui provoque la crise alimentaire et non pas l'inverse. Là, je crois que c'est assez important de le souligner. Alors, le camp de réfugiés qui est donc lui, et là je veux parler donc des déplacés qui ont franchi une frontière internationale, lui aussi joue une fonction de contrôle, notamment pour le pays d'accueil, et j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais aussi pour les États bailleurs de fonds de l'aide internationale. Ne nous leurrons pas, l'aide humanitaire n'a pas que des objectifs altruistes, elle répond aussi à des considérations stratégiques. Là, on le voit très bien d'ailleurs dans les jeux de proximité, par exemple lorsque l'Italie a dû gérer aussi et s'est surinvestie sur la crise albanaise, crise financière puis politique avec l'affaire du Kosovo à la fin des années 90, de peur que des boat people albanais ne soient tentés de traverser l'Adriatique pour gagner les rivages de l'Italie et demander l'asile politique. Là, l'aide humanitaire de l'Italie à destination de l'Albanie était aussi très largement conditionnée par des considérations stratégiques. Je pourrais aussi citer l'exemple des États-Unis, qui ont finalement d'ailleurs décidé une opération militaire à Haïti en 1994 pour rétablir un régime élu, celui d'Aristide, du président Aristide, qui avait été renversé par une junte militaire, précisément pour essayer d'endiguer un flux de boat people qui essayait de gagner les rivages de la Floride. Bon, ça fait partie des fonctions politiques qu'on veut assigner à l'aide au développement, même en France. Hein. Permettez-moi de citer Jean-Michel Severino dans un article récent du Monde, donc c'est le directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement, qui disait que l'aide doit aussi contribuer, je cite, à réguler les mouvements migratoires, réguler, c'est-à-dire les contrôler, voire les endiguer, donc réguler les mouvements migratoires, tant entre pays pauvres qu'entre ceux-ci et les membres de l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches. C'est très clair, on assigne à l'aide humanitaire dans les camps de réfugiés une fonction politique, une fonction d'endiguement pour essayer de contrôler ces flux de population et éviter aussi que cela ne rejaillisse sur les pays occidentaux. Alors bien sûr, cette fonction politique explique pourquoi dans la plupart des cas, les camps de réfugiés sont des espaces fermés, à circulation réduite, avec un statut donc d'extraterritorialité, un petit peu comme une ambassade, qui est garantie par les Nations Unies à travers le HR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, mais cette protection, cette garantie, n'est offerte qu'à l'intérieur de l'espace fermé du camp. Dès que le réfugié sort, dès que le réfugié prima facie, dont je parlais tout à l'heure, le réfugié de facto, dès qu'il sort du camp, il ne bénéficie plus de cette protection. Alors, cette fermeture des camps, c'est vrai qu'elle s'inscrit dans toute une gamme, il y a des variantes très importantes. Vous êtes peut-être encore en mémoire l'image de ces boat people vietnamiens qui étaient enfermés derrière des grillages et des barbelés à Hong Kong, par exemple, qui était jusqu'en 1997 une enclave britannique en Chine populaire. Parfois, c'est simplement le désert qui joue le rôle d'une barrière naturelle et qui empêche les réfugiés de sortir du camp. Je pense à ces camps de réfugiés somaliens que j'ai étudiés dans le nord-est du Kenya, qui ont été établis le plus loin possible des centres urbains et des centres de pouvoir, donc dans des terres semi-arides. Et là, à moins d'avoir une bonne quantité d'eau, un chameau, il est fort difficile de sortir du camp. Et à partir du moment où on rentre dans un bus, dans un car, il faut à ce moment-là l'autorisation de la police. Donc à ce moment-là, on peut dire que le désert joue le rôle d'une barrière qui empêche concrètement les réfugiés de sortir du camp. Bon, il empêche plus ou moins les populations nomades que sont les Somalis d'en sortir, mais en tout cas, l'idée, c'est que le camp est un espace fermé. Alors, il y a quelques exceptions, hein, effectivement. Il y a des endroits, je pense au nord de l'Ouganda, où il y a des sites de réinstallation agricole des réfugiés en provenance du sud du Soudan, qui ont été autorisés, fait exceptionnel, à cultiver la terre, entre autres, parce que contrairement au Kenya voisin, la pression foncière est bien moindre dans le nord de l'Ouganda. Et là, ce sont des petits sites de réinstallation. Le mot de camp, du coup, prête un petit peu à confusion. Des sites de réinstallation à échelle beaucoup plus humaine, avec 3 000, 4 000 occupants, contrairement au camp de réfugiés de Dadaab, qui accueille les Somaliens au Kenya, et là, qui compte plus de 100 000 habitants. C'est une véritable ville en tant que telle. Hein. C'est d'ailleurs un des rares phénomènes de ghetto urbain en milieu rural. Et je reviendrai après aussi sur cette question de ghetto, hein, avec tout ce qu'elle véhicule en termes d'enfermement dans un camp. Alors, dans ce contexte, on peut s'étonner, pourquoi est-ce que les organisations humanitaires, au-delà des considérations stratégiques des États bailleurs de fonds de l'aide, hein, mais pourquoi est-ce que les ONG humanitaires, pourquoi est-ce que le HR retiennent le camp comme la solution de facilité, la solution la plus utilisée pour accueillir des réfugiés, alors même que cela pose un petit peu le même dilemme que la prison. C'est-à-dire qu'on sait que la prison, c'est aussi l'école du crime et que ça ne résout en rien la question de la criminalité. De la même façon, on sait que le camp est un lieu d'enfermement qui ne résout en rien la question des réfugiés. Alors, pourquoi est-ce que le camp est retenu comme une solution de facilité? Bon, il y a à cela quand même des avantages, il faut bien le reconnaître. Notamment en termes d'économie d'échelle par rapport aux procédures traditionnelles de dispersion dans les stratégies de fuite. Hein. Le fait que la population soit regroupée fait qu'il est moins cher, toute proportion gardée, de la ravitailler, de lui fournir des soins de santé, de construire des écoles pour éduquer les enfants de ces réfugiés, que si ces personnes étaient dispersées en brousse. Ça reviendrait beaucoup plus cher par individu d'essayer de les rattraper on ne sait où, perdus dans la jungle, pour essayer de leur fournir des services minimums. De ce point de vue, le camp de réfugiés, effectivement, permet des économies d'échelle, c'est-à-dire que pour la même somme, je suis à même, si j'étais dirigeant d'une organisation humanitaire, de ravitailler beaucoup plus de gens. Il y a aussi une question de facilité d'accès, c'est-à-dire que très souvent, autour du camp de réfugiés, quand cela n'existe pas déjà, on construit une piste d'aviation, voire parfois des routes, et que donc cela permet d'accéder plus facilement à la population qu'on veut ravitailler par rapport à une population dispersée dans la brousse. Ça, c'est bien évident. Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que ces facilités d'accès présentent aussi des inconvénients, c'est-à-dire qu'elles rendent les réfugiés plus visibles aussi, puisqu'ils sont regroupés à l'intérieur d'un camp. Elle permet aussi leur ciblage, puisque très souvent, ces réfugiés sont perçus comme des populations ennemies par le régime, par exemple, du pays qu'elles ont fui. Et donc, malheureusement, il faut le dire aussi, le camp de réfugiés facilite aussi le bombardement de ces populations civiles qui, peut-être, seraient plus sécurisées si elles s'étaient dispersées dans la brousse. Donc de ce point de vue, il y a aussi des inconvénients. Inconvénients qu'on voit aussi en termes de militarisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la population réfugiée est confinée et regroupée dans un espace fermé, cela facilite aussi les efforts de recrutement des guérillas en lice dans la région, de recrutement plus ou moins volontaire. Et je reviendrai aussi sur toute cette question de la militarisation des camps de réfugiés, car après tout, prendre les armes, c'est aussi une option dans les stratégies de survie. Et puis, il faut voir aussi que tous ces camps de réfugiés, en tant qu'espace fermé, provoquent des effets pervers sur le plan social. Notamment parce que dans la plupart des cas, ces camps ne permettent pas aux réfugiés de travailler. Le pays d'accueil, contrairement aux demandeurs d'asile qui obtiendraient un statut de réfugié conventionnel qui, lui, autorise à travailler, mais les occupants des camps, en principe, ne sont pas autorisés à s'employer qui pour cultiver la terre, qui pour mener des professions libérales ou commerçants ou autres. On est toujours là, dans ce domaine, à la limite de la légalité du pays d'accueil. Hein. Il faut voir que là, le pays d'accueil, sa législation en termes de droit d'asile, joue aussi un rôle très important dans l'organisation du camp de réfugiés. Et donc, cette population qui ne peut pas travailler, ben, ma foi, est conduite aussi à l'oisiveté malgré elle, ce qui conduit aussi à des phénomènes de délinquance juvénile, voire parfois aussi de grande criminalité. Je crois d'ailleurs que le nom que les réfugiés donnent à leur propre camp est de ce point de vue assez parlant. Hein. Les camps sont des lieux inhospitaliers. Je pense par exemple aux réfugiés sahraouis. Qui ont fui donc cette ancienne colonie espagnole qui était le Sahara occidental en 1975, qui a été envahie par l'armée marocaine, et qui se sont réfugiés près de la localité de Tindouf, en Algérie. Et ils ont rebaptisé Tindouf en en faisant un acronyme ironique, c'est une forme d'ironie du désespoir, qui dit « tout individu normal devient obligatoirement fou ». J'ai eu l'occasion aussi de visiter des camps de réfugiés somaliens, un notamment au nord-est d'Aden, au Yémen, qui avait été établi sur des terres volcaniques. C'était de la roche très noire, très dure, très coupante. Il était même difficile de s'y asseoir dessus sans se piquer les fesses, sans même parler d'y planter une tente. C'était vraiment un endroit inhospitalier par excellence. Et les Somaliens l'avaient rebaptisé Al-Jain, ce qui en arabe signifie l'enfer. Ce qui donne un petit peu l'idée des conditions de vie à l'intérieur de ces espaces fermés. Je parlais d'effets pervers, donc aussi sur le plan social, du confinement des réfugiés dans des camps d'où ils ne peuvent pas sortir et où ils ne sont pas autorisés à travailler. Ceci se conjugue aussi à plusieurs effets, à plusieurs autres phénomènes qui sont liés à des conflits sociaux relatifs aux classes d'âge, aux groupes ethniques, aux groupes politiques. Le fait aussi que dans bien des camps, la guerre dans le pays d'origine se poursuit, se prolonge à travers les camps de réfugiés, à une échelle bien moindre certes, mais elle se prolonge et provoque des affrontements, parfois avec force mort d'homme. Je pense à ce qui s'est passé dans le sud du Soudan, qui était en guerre contre la junte islamiste au pouvoir à Khartoum. À partir de 1991, la principale guérilla en lice, qui était la SPLA, la Sudan People's Liberation Army de John Garang, qui était à dominante Dinka, a été contestée par des groupes Nuer qui ont choisi de rallier la junte islamiste de Khartoum pour contester la dominance Dinka de John Garang sur la SPLA. Eh bien, ce conflit entre Nuer et Dinka, on l'a retrouvé, il s'est reproduit dans les camps de réfugiés, notamment à Kakuma au Kenya, où là aussi on a vu des affrontements entre Nuer et Dinka, qui quelque part étaient aussi la réplique des tensions internes au sein de la guérilla sud-soudanaise. Bon, je pourrais multiplier les exemples avec aussi les camps de réfugiés somaliens, avec la chute de la dictature Siad Barré qui opposait notamment des groupes Hawiye et des groupes Darod. Et on a vu dans les camps de réfugiés somaliens également des tensions très fortes entre ces groupes Hawiye et groupes Darod, avec parfois des exécutions, des meurtres et des morts d'hommes. Donc vous le voyez, les camps de réfugiés sont des endroits de grande violence. Dans ce contexte, comment ils sont organisés? Et là, j'en viens à ma deuxième partie, donc sur les stratégies de survie des réfugiés. Bon, concernant la gestion des camps, il y a plusieurs acteurs en lice. À un premier niveau, vous avez évidemment, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui donc a été créé au moment de la Convention de Genève de 1951 et qui, à partir des années 60, a de plus en plus été conduit à s'engager sur des terrains dans les pays du Sud. Hein, au départ, la Convention de Genève de 1951 était très européano-centrée. Hein. C'est seulement dans ce deuxième temps que le HCR a été amené à travailler dans les pays en développement, dans les pays qui venaient d'acquérir leur indépendance, notamment. Le HCR, dans la gestion des camps, joue un rôle fondamental. C'est en quelque sorte le superviseur, le contremaître. C'est notamment lui qui passe les contrats avec les ONG, les organisations non gouvernementales, humanitaires, qu'elles soient internationales ou locales, qui vont être amenées à prendre en charge le ravitaillement alimentaire de la population dans le camp, son éducation, les soins de santé, l'irrigation, le forage de puits, etc. etc. À un niveau local jouent aussi évidemment les autorités politiques du pays d'accueil, tant le gouvernement central que les municipalités environnantes des camps de réfugiés. Et puis à l'intérieur du camp, il y a aussi un autre levier d'acteurs qui sont les organisations de réfugiés. Ça peut être des ONG qui sont créées ex nihilo précisément pour relayer et être des partenaires du HCR dans l'approvisionnement du camp. Mais ça peut être, dans la plupart des cas, en réalité, ça peut être aussi tout simplement les mouvements de lutte armée des réfugiés, puisque précisément, les camps de réfugiés sont aussi des viviers de recrutement, et très souvent, les guérillas se créent précisément dans des camps de réfugiés. C'est à partir de là que l'opposition politique s'organise et choisit la voie de la lutte armée. Et on a eu des cas comme ça, de camps de réfugiés qui étaient concrètement tenues par des mouvements de lutte armée. Je pense à la SPLA dont je parlais tout à l'heure pour les camps de réfugiés soudanais en Éthiopie, mais aussi évidemment aux camps de réfugiés cambodgiens en Thaïlande qui étaient tenus pour certains d'entre eux par les Khmer Rouges de Pol Pot. Je pense également à des camps de réfugiés afghans qui étaient tenus par les organisations de Moudjahidin qui luttaient contre la présence de l'armée rouge en Afghanistan. Donc vous avez plusieurs acteurs qui interfèrent. Alors, je le disais, certes, le HCR joue un rôle très important, mais il faut voir que ce rôle est conditionné par la politique d'asile du pays d'accueil et qu'il limite très sérieusement la capacité du HCR à assurer la protection des occupants du camp et le ravitaillement également. De ce point de vue, on ne peut pas faire l'économie aussi d'une étude des politiques nationales et des politiques du droit d'asile au niveau national et pas seulement au niveau global et international. Je vais vous en donner quelques exemples parce que parfois le HCR s'est retrouvé, malgré lui certainement, à conduire des politiques qui contrevenaient aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 suite aux pressions des pays d'accueil. Disposition de la Convention de Genève de 1951 concernant notamment le principe du non-refoulement et du rapatriement volontaire des réfugiés. Ce qui d'ailleurs va dans le même sens, c'est-à-dire le principe du non-refoulement, c'est que si un réfugié victime d'une crise franchit une frontière internationale, on n'a pas le droit de le refouler immédiatement. Le principe du rapatriement volontaire, c'est aussi qu'on n'a pas le droit de forcer les gens à revenir chez eux contre leur gré. Or, à plusieurs reprises, suite aux pressions des pays d'accueil, le HCR s'est précisément retrouvé à cautionner des politiques de rapatriement forcé. Je pense aux réfugiés éthiopiens à Djibouti en 1986 ou aux réfugiés burundais et rwandais en Tanzanie en 1996. Le cas de la Tanzanie est d'ailleurs intéressant parce que là, on voit les différentes séries d'acteurs qui ont pu jouer dans ce domaine pour forcer les réfugiés rwandais à rentrer chez eux en 1996, donc 2 ans après le génocide. Il y avait d'une part la lassitude manifeste du gouvernement tanzanien. Ça fait 40 ans que le gouvernement tanzanien accueille des réfugiés kimozambicains du temps de la lutte pour l'indépendance contre le colonisateur portugais à partir des années 60, qui des réfugiés victimes des crises à répétition dans l'Afrique des Grands Lacs, donc notamment des Burundais, victimes de pogroms qui ont pris l'ampleur d'un quasi-génocide en 1972, et puis évidemment les réfugiés rwandais lors des différents massacres qui ont suivi jusqu'au génocide de 1994. Cette lassitude a certainement conduit le gouvernement tanzanien à radicaliser sa position et à exercer des pressions fortes sur le HCR pour qu'il conduise une opération de rapatriement non volontaire. Mais ce n'est pas seulement le gouvernement tanzanien qui est intervenu dans ce domaine en 1996. Il y avait aussi le pays d'origine des réfugiés, tenu donc par le régime de Paul Kagame, encore aujourd'hui au pouvoir à Kigali, qui savait très bien que les camps de réfugiés aux frontières d'un pays sont des menaces pour la sécurité nationale de l'État considéré, de l'État d'origine de ces réfugiés. Et Paul Kagame le sait d'autant mieux que lui-même fait partie de ces réfugiés Tutsi qui ont fui la révolution sociale du Rwanda en 1959 qui a consacré l'arrivée au pouvoir des Hutus et qui a entraîné des massacres qui ont conduit les populations dominantes Tutsi à fuir vers les pays voisins, à être accueillies pour certaines dans des camps de réfugiés, notamment en Ouganda, d'où devait partir la rébellion du FPR, du Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame, qui a pris le pouvoir après le génocide de 1994. Donc là, Paul Kagame était très bien placé pour savoir quel danger représentaient ces camps de réfugiés à sa frontière. Et lui aussi a exercé des pressions très fortes sur le HCR pour mener cette opération de rapatriement non volontaire en 1996. En plus de ça, il faut voir que le Rwanda, le régime actuel au Rwanda, est allié des États-Unis et que les États-Unis sont le principal bailleur de fonds du HCR. Chaque année, ils fournissent environ un quart du budget de cette institution onusienne. C'est extrêmement important. Et c'est à travers les États-Unis que la pression a été exercée par les Rwandais, par le régime rwandais, pour donc mettre en place cette opération de rapatriement non volontaire en 1996. Bon, je vous racontais tout ceci pour montrer que la communauté internationale n'est pas la seule à avoir un rôle et à avoir une influence dans la gestion des camps de réfugiés. Ça dépend beaucoup aussi de la politique d'asile du pays d'accueil. Et on ne peut pas en faire abstraction. Encore une fois, vous avez des pays qui n'ont pas du tout signé la Convention de Genève de 1951. Et aujourd'hui, des réfugiés indonésiens sont tout simplement placés dans des camps de détention en Malaisie, qui n'est pas signataire de la Convention de Genève de 1951, où donc, de plein droit, le HCR n'est pas autorisé à intervenir, à moins de négocier une convention ad hoc. Il y a de ce point de vue des différences assez importantes. Je parlais tout à l'heure du Kenya. Le Kenya, le régime depuis l'indépendance, est tenu par des élites chrétiennes à Nairobi et a un problème historique de frontière avec la Somalie. Donc quand le régime Siad Barre à Mogadiscio s'est effondré en 1991 et que le Kenya a commencé à accueillir un afflux de réfugiés musulmans en provenance de Somalie, ces réfugiés ont été perçus comme une nuisance. Et cela a conduit le gouvernement kényan à exercer des pressions fortes sur le HCR pour que ces réfugiés soient littéralement, enfermés, en tout cas surveillés de très près à l'intérieur de camps, de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'installer à l'intérieur du Kenya, et notamment s'installer dans les villes qui sont les centres de pouvoir. Et là, c'est véritablement la politique d'asile du pays d'accueil qui a conduit à renforcer l'enfermement de ces camps où ont été accueillis les réfugiés somaliens, qui en plus après ont servi de bouc émissaire facile à qui on a imputé la hausse de la criminalité, le chômage, etc. Bon, là il y a tout un discours xénophobe qu'on retrouve aussi ailleurs, il faut bien le dire, mais où là les réfugiés ont été les boucs émissaires du gouvernement kényan. Du côté ougandais, par rapport aux réfugiés en provenance du sud du Soudan, les choses étaient très différentes. Ce qui explique aussi pourquoi les camps de réfugiés dans le nord de l'Ouganda sont des espaces beaucoup plus ouverts. Il y avait à la fois des affinités culturelles entre le régime au pouvoir à Kampala en Ouganda et les réfugiés en provenance du sud du Soudan, des sympathies politiques indéniables, et aussi le fait que la pression foncière dans le nord de l'Ouganda est beaucoup moins forte qu'au Kenya. Et de ce fait, les réfugiés soudanais ont été autorisés à cultiver la terre et à s'établir dans des sites à échelle humaine, 3 000 à 4 000 personnes, qui semblent beaucoup plus viables et qui peuvent même peut-être un jour à terme tendre vers l'autosuffisance alimentaire, contrairement à tous les aspects pervers que j'ai mentionné pour des camps qui sont maintenus sous des camps de réfugiés fermés qui sont maintenus sous perfusion humanitaire. Alors dans ce contexte, je vois que l'heure avance, donc il faut que je me dépêche un peu. Quelles sont donc les stratégies individuelles et communautaires de survie à l'intérieur de ces camps? Alors d'abord un premier point. La dispersion dont je parlais tout à l'heure, elle continue d'exister, c'est-à-dire que les camps ne captent qu'une partie des flux de réfugiés, hein, ça me semble être très important. Beaucoup de réfugiés font aussi l'option de ne pas bénéficier de la protection juridique de la communauté internationale à travers le HCR et préfèrent effectivement plonger dans la clandestinité pour essayer de refaire leur vie, notamment en ville, puisque très souvent les camps sont des ghettos urbains en milieu rural. De ce point de vue, les camps de réfugiés jouent aussi un rôle de tremplin vers la ville, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer une fonction simplement transitoire. Les réfugiés s'y ressourcent pendant un moment et ensuite choisissent d'entrer dans la clandestinité pour essayer de s'installer dans le pays d'accueil, quitte à obtenir des régulariser leur situation par la suite. Alors ça c'est intéressant parce que ce rôle du camp de réfugiés comme un tremplin vers la ville, il s'apprécie à la fois dans le parcours migratoire et aussi comme une forme d'apprentissage de la citadinité. Il n'est pas rare que dans un même camp de réfugiés, on ait plusieurs, on ait le caractère cosmopolite qui est fondateur de la ville finalement, et qu'on ait des nationalités diverses, des communautés diverses, et que finalement à l'intérieur du camp de réfugiés, les habitants sont amenés à faire l'apprentissage de la citadinité. Et ce qu'on voit très souvent, à quelques exceptions près, c'est que des paysans ou des réfugiés venant de villes secondaires, lorsque le conflit est résolu et qu'ils peuvent retourner dans le pays d'origine, choisissent de revenir en ville et ne veulent pas effectuer une révolution culturelle et revenir cultiver les champs. Et là, de ce point de vue, le camp de réfugiés participe de ce vaste mouvement d'urbanisation, qui entre nous soit dit d'ailleurs une révolution dans l'histoire de l'humanité. Hein, vous l'avez vu, les chiffres viennent de sortir. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cette planète compte plus de citadins que de ruraux. Hein, c'est la première fois qu'il y a plus d'hommes qui vivent en ville qu'à la campagne. Et de ce point de vue, le camp de réfugiés joue un rôle de tremplin vers la ville, ne serait-ce d'ailleurs que par son rôle d'agglomération humaine, qui est peut-être la première définition géographique de la ville, hein. Ces camps de réfugiés qui font plus de 100 000 habitants dans le nord du Kenya sont des villes virtuelles, si vous voulez. Sans même parler des camps de réfugiés qui se sont pérennisés et qui finalement ont fini par être engloutis par l'expansion urbaine. Je pense aux camps de réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza ou au Liban, qui existent depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Hein. On n'est plus du tout là dans le phénomène du camp de réfugiés perçu comme un phénomène lié à l'urgence. Il y a là une pérennité du camp très importante. Je vois que j'ai la musique. À l'intérieur du camp, comment ça se passe ? Je le disais tout à l'heure, le réfugié n'est pas une victime passive qui attendrait plus ou moins patiemment, plus ou moins béatement, l'assistance que la communauté internationale voudrait bien lui fournir. C'est aussi un acteur économique. Alors certains arrivent notamment à s'imposer comme des intermédiaires, des go-between entre la communauté internationale, les organisations humanitaires qui ont la charge de la gestion du camp et la majorité des occupants. Jouant un petit peu le rôle de l'interprète de Van Grin, peut-être vous connaissez le roman de Ampateba, l'histoire de cet interprète qui d'ailleurs manipule autant le colonisateur français que sa propre communauté. Ce rôle d'intermédiaire dans les camps est extrêmement, ce rôle d'interprète qui assure la traduction entre le langage de la communauté internationale et le langage vernaculaire des réfugiés est extrêmement important. Et il y a de ce point de vue des positions véritablement de notables dans les camps de réfugiés, de gens qui ont réussi à se promouvoir, qui par exemple ont réussi à être employés par les ONG, qui comme docteur, qui comme infirmier, qui comme logisticien ou autre. Bon. Alors je le disais tout à l'heure, en principe, dans les camps de réfugiés fermés, on n'a pas le droit de travailler. Néanmoins, certains réfugiés obtiennent des contrats de la part des ONG internationales pour devenir leurs employés, sans d'ailleurs bénéficier tout à fait de la législation nationale en termes de droit du travail. Et à ce titre, d'ailleurs, ils ne perçoivent pas des salaires, mais officiellement des émoluments, ce que dans le jargon de la communauté internationale spécialisée, on appelle des incentives. Néanmoins, ces réfugiés employés des ONG jouent un rôle d'intermédiaire qui est extrêmement important. Alors, dans le registre du réfugié comme entrepreneur économique, il faut voir aussi la fonction du commerçant, car les camps de réfugiés sont souvent des marchés extrêmement actifs. Qui là aussi nous invite à prendre nos distances avec cette vision du réfugié comme une victime passive. Non, les réfugiés sont aussi des acteurs économiques. Ils investissent. Alors, certains diront ce ne sont pas des commerçants mais des trafiquants. En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, il y a inadéquation entre les intrants, ce que propose l'aide humanitaire, et les besoins des réfugiés. Je vous donne un exemple pour aller très vite. Les réfugiés somaliens, notamment dans le sud, ont été colonisés par les Italiens, et donc leurs habitudes culinaires, c'est de manger des pâtes. En plus de ça, comme la Somalie était jusqu'avant la guerre un gros producteur de bananes, ils agrémentent leurs pâtes, ils les mangent avec des bananes. Bon, je ne peux pas dire que j'aime beaucoup ça, mais en tout cas voilà, c'est ce qu'ils mangent et ils aiment beaucoup ça. Et comme c'est en plus de ça des populations pastorales, ils mangent beaucoup de viande et de lait. Qu'est-ce que leur propose la communauté internationale dans les camps de réfugiés? C'est plutôt de la pâte de manioc, de la farine de manioc ou de maïs. Qui sert par exemple pour les Kenyans, pour les autochtones kenyans, à produire le plat de base qu'on appelle l'ougali au Kenya. Donc ce que font les réfugiés somaliens, c'est que la farine de maïs qu'on leur donne ou la farine de manioc qu'on leur donne, ils vont la revendre au marché noir et avec cet argent, ils vont s'acheter les pâtes parce qu'ils préfèrent manger des pâtes. Bon, après, on peut appeler ça du trafic si on veut, mais en tout cas, il y a là déjà effectivement une dimension économique qui n'est pas négligeable et sur laquelle il faut ajouter aussi une capacité véritablement d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez des réfugiés qui ont véritablement une connexion globale. C'est tout à fait frappant. Je parlais tout à l'heure de ces stratégies d'investissement familial où dans un même lignage, on va placer l'aîné en Occident, le second dans un pays pétrolier riche, le troisième dans un camp de réfugiés dans un pays voisin du pays d'origine de la crise, tandis que les cadets resteront pour, disons, garder les intérêts du lignage dans le pays considéré. Il existe de ce point de vue une capacité d'épargne du réfugié. Ça, c'est tout à fait surprenant, notamment à travers le phénomène des remises de fonds, qui, entre nous soit dit, hein, même en termes de volume, les remises de fonds des migrants aujourd'hui sont bien plus importantes que l'aide humanitaire en termes de volume financier. Alors c'est très flagrant dans le cas des réfugiés somaliens qui disposent de tout un système, mais là j'ai pas le temps de l'exposer plus avant, sinon je vais vraiment déborder du temps qui m'est imparti, système qu'on appelle le système du Hawilat, qui permet très efficacement aux réfugiés somaliens qui s'est établi par exemple à Etobicoke, qu'on a rebaptisé le petit Mogadiscio, qui est à un quartier de Toronto au Canada, de transférer des fonds qui en moins de 24 heures sont disponibles pour le réfugié somalien dans un camp en Somalie, en Éthiopie ou au Kenya. Et avec cet argent ne sert pas seulement à assurer le complément nutritionnel qui ne serait pas fourni par l'aide humanitaire, mais il permet aussi de fournir le capital de départ qui permet d'investir dans du commerce, qui d'ailleurs a suscité des tensions avec les commerçants locaux, qui évidemment ne sont pas très heureux de cette concurrence qu'ils considèrent comme déloyale. Donc là, on le voit, une des stratégies de survie des réfugiés, c'est aussi d'être des investisseurs économiques, aussi surprenant que cela puisse paraître. Et puis j'en viens, et je m'arrêterai là-dessus pour laisser un peu de place à la discussion, j'en viens aussi à une option de survie qui est, à mon avis, trop négligée, c'est la capacité à prendre les armes. C'est-à-dire qu'effectivement, dans des stratégies de survie, le réfugié peut être amené à se militariser. On a d'ailleurs des statistiques très précises du HR dans ce domaine, et qui sont tout à fait étonnantes, qui montraient par exemple qu'en 1987, 60% des réfugiés vivant dans les camps, réfugiés adultes, étaient impliqués dans des actes de violence. Et le chiffre était encore de 32% en 1998. On a des cas comme ça, des études très précises, qui montrent par exemple que dans les camps de réfugiés afghans au Pakistan, du temps où l'Afghanistan était occupé par l'armée rouge, 83% des réfugiés mâles, selon une étude de 1991, avaient en fait pris les armes et étaient partis combattre les communistes en Afghanistan, quitte ensuite à venir se ressourcer dans les camps de réfugiés au Pakistan. On a le même phénomène avec les camps de réfugiés cambodgiens qui sont tenus par les Khmer Rouges en Thaïlande après la chute du régime de Pol Pot et l'invasion vietnamienne du Cambodge en 1979, où là, selon les estimations et selon les camps, c'est entre 30% et 84% de l'aide humanitaire qui est détournée directement par les combattants. Et on voit aussi un petit peu la même chose dans les camps de réfugiés tenus par la SPLA, notamment en Éthiopie, la SPLA dont je parlais tout à l'heure, donc la principale guérilla en lice dans le sud du Soudan. Ce qui, entre nous soit dit, nous éclaire un peu aussi sur le phénomène de l'enfant soldat, qui parfois est embrigadé de force, mais parfois il s'agit aussi d'une stratégie de survie volontaire, il faut le dire. Et il faut dire aussi également que l'enfant soldat, en tout cas en Afrique, n'est absolument pas un phénomène nouveau. Les historiens nous montrent par exemple comment déjà au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, dans les guerres fratricides qui ont posé différents groupes Yoruba dans l'empire d'Oyo au sud-ouest du Nigeria, on utilisait déjà les enfants comme des porteurs d'armes, des espions. On les envoyait dans des missions de reconnaissance, notamment la nuit, parce qu'ils pouvaient mieux se faufiler dans les positions ennemies pour pouvoir les reconnaître précisément et les repérer. Tout ceci n'est absolument pas nouveau. Alors évidemment, et je crois que ça peut ouvrir d'ailleurs la discussion, ceci pose un grand dilemme pour les organisations humanitaires. Comment, dans les camps de réfugiés, distinguer qui est un combattant et qui serait un civil, entre guillemets, innocent? Ce n'est absolument pas marqué sur leur front. Alors il y a une tactique, une stratégie qui est souvent employée par les humanitaires, qui est de dire qu'on va plutôt ravitailler les femmes que les hommes. Soit on va ravitailler que les femmes et pas du tout les hommes, en considérant que les hommes adultes sont potentiellement tous des combattants, soit on va par exemple donner une double ration alimentaire aux femmes au détriment des hommes. Ceci, à mon avis, parle d'une fausse conception des guerres contemporaines. En réalité, les femmes jouent un rôle très important dans les guerres, y compris dans les camps de réfugiés. D'abord, certaines sont directement des combattantes. Il y a des guérillas comme ça, comme le Sentier Lumineux au Pérou, les FARC en Colombie, les Tigres Tamouls au Sri Lanka, le PLF du temps de la lutte pour l'indépendance en Érythrée, où un tiers des forces combattantes dans ces guérillas sont des femmes. Et puis de toute façon, les femmes assurent aussi deux autres fonctions militaires essentielles, y compris donc dans les camps de réfugiés. C'est d'abord le ravitaillement. Un combattant qui n'est pas nourri et qui a faim ne peut plus combattre. Or, ce sont précisément les femmes, et notamment les femmes commerçantes, et elles excellent souvent dans ce domaine, qui permettent l'approvisionnement des combattants. Et les femmes jouent aussi une autre fonction militaire qui me paraît très importante, c'est la reproduction du groupe, reproduction purement biologique. Ça, c'est un phénomène tout à fait étonnant et on le voit bien dans les camps de réfugiés. Il y a une forte pression sociale qui s'exerce sur la fécondité des femmes pour qu'elles fassent de plus en plus d'enfants, notamment pour maintenir l'intégrité du groupe, puisqu'on est souvent dans des guerres qui sont perçues comme des guerres de survie du groupe. Et donc là, il y a une remontée de la fécondité, notamment dans les camps de réfugiés, que les démographes observent assez généralement. Et là aussi, ça joue une fonction militaire. Pour le dire assez grossièrement, il s'agit aussi de renouveler le stock de chair à canon. Et là, il est clair que les femmes ne sont pas absentes des logiques guerrières et que de ce point de vue, ravitailler seulement les femmes dans les camps ne permet pas non plus d'exonérer les organisations humanitaires de leurs responsabilités dans l'approvisionnement des combattants. Voilà, écoutez, je vois que j'ai un petit peu débordé le temps que j'avais, donc je suis désolé, mais peut-être qu'on peut ouvrir la...
Donc, les lumières reviennent et nous allons passer aux questions. Manifestez-vous, voici déjà une. Oui, allez-y.
Bonsoir. Alors, je poserai deux questions qui sont liées et je vous demanderai d'y répondre en même temps. La première concerne Israël, savoir si Israël est signataire de la Convention de 1951. Et la deuxième, évidemment, est liée à la Palestine, qui est un territoire qui n'est pas un État, qui est rempli de réfugiés, dont le camp est défini plutôt par un dehors qu'un dedans, avec la construction du mur, et notamment un territoire qui est constamment déstructuré avec l'implantation des colonies. Merci, si vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur ce sujet-là.
Oui, sous réserve d'inventaire, à ma connaissance, Israël est signataire de la Convention de Genève de 1951. Concernant le cas de la Palestine, en fait, vous soulevez un point, c'est qu'il y a effectivement des territoires dans le monde qui ne sont pas reconnus des États, je pense aussi au Somaliland, et où donc la Convention de Genève de 1951 ne peut pas s'exercer de plein droit. Mais à ma connaissance, les autorités palestiniennes ont signé notamment les conventions de Genève de 1949 qui encadrent le droit de la guerre. Et à ce titre, elles ont aussi une responsabilité par rapport à des populations qui aujourd'hui sont considérées comme des populations déplacées, finalement. Alors, d'ailleurs, j'en viens aussi à une autre question intéressante, c'est-à-dire sur un même territoire, suivant l'évolution du conflit, une même personne peut être considérée comme un déplacé interne, puis ensuite un réfugié. Lors de la création de l'État d'Israël en 1948, la bande de Gaza a d'abord été placée sous la tutelle égyptienne. Et c'est pour ça que, jusqu'à la guerre de 67, on a pu parler de réfugiés palestiniens, alors même que finalement, aujourd'hui, on devrait les considérer plutôt comme ayant un statut de déplacé. Même chose pour la Cisjordanie, qui jusqu'à la guerre de 67 et surtout Septembre Noir en 70, était gérée par le royaume jordanien. Bon, il existe aussi d'autres cas où vous avez des territoires où la Convention de Genève de 1951 s'applique, je dirais, par défaut. Je pense à ces États non reconnus par la communauté internationale, Somaliland, certains territoires du Caucase, où là, finalement, on considère que les anciens États constitutifs de ces territoires, qui, eux, avaient signé la Convention de Genève de 1951, que la Convention, du coup, est transmissible aux autorités d'un territoire qui aurait, entre-temps, fait sécession. Et là, la Convention, en principe, s'applique par défaut.
Oui, j'aimerais savoir, au niveau de la vie quotidienne des réfugiés, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les camps qui vont être temporaires et puis qui vont durer peu de temps et ceux, par exemple, qu'on a l'impression qu'ils sont éternels, comme les camps palestiniens du Liban où on a l'impression que jamais il y aura de solution? Est-ce qu'ils s'organisent différemment? Parce qu'il y en a qui ont, je pense, une perspective courte et puis d'autres qui se disent peut-être qu'il n'y aura jamais de solution.
Bon, c'est très difficile de le dire à l'avance, évidemment. Hein. Donc on ne sait jamais si le camp de réfugiés va se pérenniser. Je ne pense pas que les Palestiniens en 1948 imaginaient que deux générations après, ils seraient toujours là, dans des camps de réfugiés au Liban. Le cas du Liban, d'ailleurs, est très intéressant, parce que ce sont des espaces fermés, certes, mais aussi parce que les Palestiniens sont très attachés à leur statut de réfugié qui conditionne leur droit au retour. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que s'ils s'intègrent dans la société libanaise, ce qui leur permettrait par exemple de travailler, de s'y intégrer, de s'y marier, ils vont perdre ce droit au retour qui est vraiment constitutif de leur identité. Ce qui explique aussi pourquoi il y a perpétuation sur maintenant plus d'un demi-siècle de camps de réfugiés qui au départ n'avaient qu'une fonction transitoire et qui d'ailleurs initialement étaient, et le sont encore aujourd'hui, n'étaient pas gérés par le HCR, par un organisme spécialisé de l'ONU qui s'appelle UNRWA, un office spécialisé pour gérer la crise du Proche-Orient suite à la création de l'État d'Israël en 1948, c'est-à-dire 3 ans avant la signature de la Convention de Genève de 1951. Mais là, ce qui est intéressant dans le cas de ces camps de réfugiés palestiniens, c'est véritablement que l'identité de la population est liée à ce statut de réfugié qui conditionne le droit au retour. Et que ce statut de réfugié, les Palestiniens ne veulent pas le lâcher, quitte à renoncer à s'intégrer dans le pays d'accueil, avec toutes les souffrances et les difficultés que cela peut entraîner.
Autre question ?
Je m'excuse, en fait, je voudrais savoir qu'est-ce qui aujourd'hui peut justifier le règlement de la question humanitaire ou qu'est-ce qui peut fonder aujourd'hui la problématique humanitaire au-delà de tout intérêt politique.
Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi votre question.
Je veux dire, pour régler la problématique humanitaire, pour régler le problème des réfugiés à travers le monde, au-delà de la politique de l'intérêt, est-ce qu'il y a une autre solution?
Les solutions. bon, d'abord, je crois que l'aide humanitaire est absolument indissociable de la politique, en réalité. Elle se proclame neutre, impartiale, etc., mais en réalité, elle est fondamentalement politique, parce qu'elle s'inscrit dans des contextes politiques très forts, notamment dans des situations de conflits armés. Ça, c'est une chose. Alors après, on peut évidemment regretter que l'aide humanitaire ne soit pas plus altruiste, mais qu'elle soit aussi conditionnée par des considérations stratégiques qui, entre nous soit dit, ne sont pas propres aux pays occidentaux. Hein. Dans les pays du Sud aussi, il y a une aide humanitaire, une politique d'asile, et celle-ci répond aussi à la défense de l'intérêt national. Alors ça, c'est une chose. Après, sur les solutions, bon, malheureusement, je dois vous avouer que je n'en ai pas. C'est-à-dire que le règlement de la question des réfugiés, dans l'idéal, c'est évidemment le rapatriement, c'est-à-dire la fin de la crise, soit qu'il s'agisse de la reconstruction du pays après une catastrophe naturelle, soit de la fin d'un conflit armé. Ça, des solutions aux guerres, malheureusement, je n'en ai pas. Bon, à partir de là, c'est vrai que sur la gestion du camp, en revanche, je crois que vous l'avez peut-être senti dans mon exposé, je suis beaucoup plus favorable à des petits camps à échelle humaine où les réfugiés ont le droit de travailler, par rapport à ces vastes ensembles qui sont des espèces de ghettos urbains abritant plus de 100 000 personnes, où se développe la criminalité armée, ces camps qui deviennent des viviers de recrutement pour les guérillas combattants dans la région, effectivement, il y a là de nombreux effets pervers. Maintenant, encore une fois, la capacité du HCR à mettre en œuvre des sites d'accueil pour les réfugiés où ceux-ci seraient autorisés à travailler, ça dépend aussi de la politique d'accueil du pays considéré. Et là, il y a des questions de souveraineté qui jouent. Au-delà même, si vous voulez, du texte de référence qu'est la Convention de Genève de 1951. Sinon, dans l'idéal, la solution ultime, c'est évidemment le rapatriement volontaire, une fois que la crise est résolue. Alors, il y a une autre solution qui parfois est utilisée, mais qui est très rare, elle concerne moins de 1% des flux de réfugiés recensés dans le monde par le HCR, c'est la réinstallation dans un pays tiers. On a eu quelques cas, bon je parlais tout à l'heure de l'opération Moïse pour les juifs, les falachas d'Éthiopie, qui donc ont été transplantés en Israël. Il y a quelques autres cas, par exemple de minorités non-somalies dans l'ex-république de Somalie, c'est-à-dire des minorités notamment bantoues, dont la langue natale n'est pas le somali, alors que la république de Somalie est à 95% peuplée de groupes somaliens. C'est même, sur le plan ethnique, un des pays les plus homogènes en Afrique. Ces minorités étaient assez déconsidérées par la majorité somalie, par les clans au pouvoir notamment, et n'avaient pas toutes les procédures de réconciliation qui auraient pu permettre leur retour une fois la crise politique résolue en Somalie. Notamment les procédures de compensation pour les meurtres, tout ce qu'on appelle le DIA dans le monde arabe, le paiement d'un prix du sang. Ces minorités qui étaient en dehors du système clanique des Somalis faisaient valoir que de toute façon, même si un jour elles auraient pu revenir en Somalie, elles auraient eu beaucoup beaucoup de mal à se réintégrer, puisque de toute façon, elles étaient déjà stigmatisées comme des minorités plus ou moins considérées comme des castes inférieures. Et à ce titre, du coup, le HCR a appuyé leur réinstallation dans des pays d'accueil tiers, notamment aux États-Unis, au Canada et un petit peu en Grande-Bretagne. Donc, bon, voilà, dans les solutions qui sont proposées, au-delà du rapatriement qui est conditionné par la résolution de la crise, il y a aussi effectivement la réinstallation dans un pays tiers, mais il faut le savoir, cette solution est extrêmement rare. Hein. C'est moins de 1% des cas de réfugiés recensés dans le monde.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de camps de réfugiés dans le monde et combien de personnes ça concerne ?
Camps de réfugiés dans le monde, là j'avoue que je n'ai pas de chiffres en tête. En revanche, sur le calcul du nombre de réfugiés, il y a un phénomène important sur lequel je voudrais mettre l'accent. On est à peu près aujourd'hui à une vingtaine de millions de réfugiés recensés dans le monde, après un pic qui allait jusqu'à 25 millions au milieu des années 90 avec la crise de l'Afrique des Grands Lacs. Mais après tout, on avait aussi 20 millions, une vingtaine de millions d'apatrides et réfugiés recensés en Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où le HCR d'ailleurs n'existait pas encore. Donc il n'y a pas d'augmentation, si vous voulez, sur la longue durée du nombre de réfugiés recensés dans le monde. Alors ça me paraît extrêmement important parce qu'en fait, il y a eu plusieurs phénomènes qui ont contribué à gonfler les chiffres. D'abord, vous l'avez vu, cette extension du concept de réfugié qui finit par inclure aussi les victimes de catastrophes naturelles et pas seulement de persécutions individuelles par un État. L'extension au domaine de l'éco-réfugié, tout ceci contribue aussi à gonfler les chiffres du nombre de réfugiés recensés. Autre facteur en ce sens, c'est la multiplication des organisations humanitaires chargées de recenser les réfugiés dans le monde. Rappelons-nous, en 1951, en fait, le HCR ne travaille qu'en Europe. C'est seulement à partir des années 60, pendant la grande vague d'indépendance des pays africains notamment, que le HCR va être amené à s'implanter et à ouvrir des représentations, des délégations dans les pays du Sud. À ceci s'ajoute la multiplication des ONG humanitaires. Tout ceci contribue en fait à renforcer l'appareil de captation statistique du nombre de réfugiés dans le monde. Et puis je le mentionnais tout à l'heure, il y a aussi un effet qui est lié au brouillage des migrations économiques et politiques liées à la fermeture de l'espace Schengen, notamment, disons la fermeture des frontières des pays riches, qui fait qu'aujourd'hui la migration de travail est très difficile et que donc beaucoup de gens sont tentés de déposer un asile pour essayer de régulariser leur situation de migrant dans les pays développés. Ceci a également contribué à gonfler les chiffres de demandeurs d'asile à travers le monde. Il y a encore un troisième facteur qu'il faut mentionner, c'est que désormais le HCR a des velléités à s'occuper également des déplacés internes et pas seulement des réfugiés qui ont franchi une frontière internationale. Et donc aujourd'hui le HCR comptabilise également les personnes relevant selon lui de sa protection, qui est en fait une protection élargie par rapport à l'entendement qu'on en avait lors de la signature de la Convention de Genève de 1951. Alors tout ceci peut donner l'illusion qu'il y a de plus en plus de réfugiés dans le monde. En réalité, c'est d'abord qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète, bien évidemment, donc il faudrait d'abord regarder les proportions. Et là, je peux vous garantir, il n'y a pas d'augmentation du nombre de réfugiés dans le monde, sur les 50 dernières années, on va dire.
Bonsoir. Vous avez rappelé que dans un camp de réfugiés, ceux-ci n'étaient pas habilités à travailler. Et moi qui ai une formation économique et commerciale, au-delà des économies d'échelle, j'aurais tout de suite envisagé à la place du HCR et des ONG, une autarcie et une économie interne. Seulement, évidemment, j'envisage tout de suite qu'il y a des problèmes juridiques et politiques qui doivent s'opposer à cela. Et d'une certaine façon, du moins de mon point de vue, on pourrait avoir l'impression que ces autorités maintiennent des populations réfugiées dépendantes de l'aide humanitaire. Je vous demande un peu les raisons, mais j'envisage le fait que on a surtout peur que les réfugiés se transforment en immigrés, n'est-ce pas ça la raison? Même si vous avez dit qu'en définitive 1% des populations retournent d'où elles viennent.
Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'en réalité, encore une fois, c'est pas dans tous les camps de réfugiés que les occupants des camps n'ont pas le droit de travailler. C'est dans la plupart des cas. Hein. Mais dans ces cas-là, en réalité, ça reflète la politique d'asile restrictive du pays d'accueil. Le pays d'accueil ne veut pas autoriser les réfugiés à travailler dans les camps, de crainte que ceux-ci ne décident de s'établir dans le pays d'accueil. Et il y a là une corrélation très forte. Et effectivement, de ce point de vue, l'aide humanitaire, le maintien des camps sous la perfusion de l'aide humanitaire sert aussi à dissuader les réfugiés de s'installer dans le pays d'accueil et à les inciter à vouloir revenir dans leur pays d'origine. Il y a là un lien assez clair, me semble-t-il. Après, sur l'autarcie, en réalité, enfin, j'essaie de le montrer très brièvement avec ce système de khawilat, hein, de transfert de fonds des migrants politique ou économique, je ne sais plus comment les qualifier en Occident, qui revoient de l'argent à la famille restée dans les camps. En réalité, les camps de réfugiés sont très rarement isolés. Il y a quelques cas de camps de réfugiés qui sont finalement des camps de détention. Là, on est presque proche du camp de concentration, mais c'est vraiment rarissime. Hein. Bon, il y a quelques réfugiés indonésiens détenus par les autorités malaisiennes aujourd'hui, mais c'est vraiment ça relève de l'exception. Dans la plupart des cas, en fait, le camp de réfugiés est effectivement conçu comme un espace fermé. Mais les frontières de cet espace sont assez poreuses. Frontières financières, frontières physiques, parce qu'il y a toujours des gens qui quand même arrivent à sortir du camp et plongent dans la clandestinité. Et puis, frontières commerciales. C'est-à-dire qu'il y a des échanges très forts, notamment pour la revente de l'aide humanitaire. Puisque l'aide humanitaire ne répond pas forcément aux besoins des réfugiés dans les camps, une partie de celle-ci est revendue aux populations avoisinantes. Là-dessus, ça me permet d'ailleurs de souligner un point que je n'ai pas eu le temps d'aborder. C'est que, contrairement aux idées reçues, bien souvent, les autochtones autour des camps sont encore plus démunis que les réfugiés. Les réfugiés, eux, au moins bénéficient de l'aide humanitaire internationale. Et en termes de couverture sanitaire, d'accès à l'éducation, ils sont parfois beaucoup plus favorisés que des gens comme les Turkana par rapport aux réfugiés soudanais de Kakuma dans les camps du nord-ouest du Kenya. D'ailleurs, le HCR a pris en compte ces différentiels de développement et désormais, il y a des dispositions qui existent pour assurer que les services publics à l'intérieur des camps de réfugiés bénéficient aussi aux populations autochtones afin de ne pas créer des ressentiments et des facteurs de tension. Et que quand on fort des puits en faveur des réfugiés dans les camps, eh ben on en fort aussi pour les populations avoisinantes. Et de ce point de vue, je crois que le camp de réfugiés, en réalité, reconfigure complètement les économies régionales. On y construit des cliniques, on approvisionne en eau, en médicaments, on y construit des pistes d'aviation, et puis les réfugiés eux-mêmes se lancent dans le commerce, et tout ceci bouleverse les économies à un niveau assez régional, ces économies régionales qui elles-mêmes s'insèrent à un niveau global absolument indéniable. Hein. Encore une fois, hein, les réfugiés sont vraiment inscrits dans des réseaux lignagers transnationaux.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, merci beaucoup.